Vous êtes sur RTL.
Voilà. RTL Matin,
Yves Calvi.
7h43, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Vous ne vous êtes pas encore exprimé sur ce projet de mariage concocté discrètement entre le français Renault et Fiat Chrysler, une fusion à 50-50 pour constituer un nouveau mastodonte de l'automobile mondiale. Vous avez donné votre bénédiction, semble-t-il. D'abord, pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Renault et pour l'État français ?
Je crois que ce projet de fusion entre Renault et Fiat, c'est une belle opportunité pour Renault et c'est une belle opportunité pour l'industrie automobile européenne. Aujourd'hui, l'industrie automobile, elle est confrontée à des défis technologiques qui sont les plus importants depuis ceux qu'elle a eu à affronter au début du XXe siècle. C'est les batteries électriques, c'est les véhicules autonomes. Et tout cela va demander des dizaines de milliards d'euros d'investissement. Donc il faut rassembler les forces de l'industrie automobile pour faire face à ces investissements. Et les industries qui survivront, les entreprises qui survivront, seront celles qui auront la capacité d'investir massivement dans le véhicule autonome, dans le véhicule connecté et dans le véhicule électrique. Et ce projet de fusion, il doit permettre à Renault et à Fiat de porter ces investissements et d'être parmi les constructeurs automobiles les plus efficaces, technologiquement les plus avancés et les plus rentables.
Ce qu'on entend, c'est qu'il est plus risqué de ne rien faire que de tenter des paris. D'abord, quelques éléments importants pour comprendre le montage, Bruno Le Maire. Après cette opération, est-ce que l'État conserve ses 15% dans le capital de l'entreprise du fleuron automobile français Renault ?
Si le projet de fusion se fait, ce sera un projet de fusion d'égal à égal, 50-50. Donc l'État aujourd'hui a 15% dans Renault, la part de l'État passera de 15 à 7,5%. La part de Nissan passera aussi de 15 à 7,5%.
Donc la France n'aurait plus que 7,5% dans Renault.
L'État français n'aurait plus que 7,5% dans Renault. Mais je voudrais rappeler certaines réalités.
C'est une quasi-sortie de l'État dans
aujourd'hui,
une entreprise qui fut nationalisée après
guerre. Quand vous regardez la structure du capital de Renault, vous avez l'État, mais vous avez également Nissan qui est présent. Vous avez Daimler, vous avez la Deutsche Bank, vous avez un fonds d'investissement américain, BlackRock. Donc vous voyez que le capital de Renault, il est déjà très diversifié. Qu'est-ce qui garantit les emplois, les sites industriels ? Le développement de Renault à l'avenir. Ce n'est pas la présence de l'État au capital. C'est la capacité à investir dans les nouvelles technologies.
Mais est-ce que l'État n'est pas
mais
un rempart ?
Mais ça n'existe pas, les remparts.
Imaginez, parce que vous savez... Les
mais Elisabeth Martichoux, c'est une question fondamentale que vous posez. Je ne veux pas faire croire aux Français qu'il y a des remparts qui seraient des remparts en papier. L'État va veiller à la défense des intérêts nationaux, bien entendu. Mais la meilleure façon de veiller aux intérêts de Renault, c'est de permettre à cette entreprise nationale qui a une longue histoire, une magnifique histoire et qui se confond avec notre histoire industrielle, de réussir au XXIe siècle une révolution technologique que d'autres constructeurs automobiles ne parviendront pas à réussir.
Oui,
ça ne m'empêche pas d'être très vigilant, évidemment, sur un certain nombre de garanties que nous demandons dans cette fusion. Quatre garanties. La première, l'emploi industriel et les sites industriels. J'ai dit très clairement au président de Renault, Jean-Dominique Senard, que c'était la première des garanties que je lui demandais dans l'ouverture de ces négociations avec Fiat.
Une garantie, c'est-à-dire ?
Une garantie sur la préservation des emplois industriels et des sites industriels en France.
Mais c'est quoi ? C'est un engagement écrit ?
C'est à lui de revenir vers moi dans les jours qui suivent, puisque j'ai donné mon accord à l'ouverture des négociations, sur les garanties qu'il a pu obtenir de la part de Fiat sur l'empreinte industrielle de Renault en France. Et croyez-moi, je suis élu en Normandie, je suis élu dans une région où il y a Sandouville, où il y a des sites très importants, je serai très vigilant sur cette première garantie que je demande à Jean-Dominique
Senard. Les syndicats vous écoutent, les ouvriers de Renault vous écoutent, les Français aussi, ça veut dire quoi ? Que vous exigez de Jean-Dominique Senard aujourd'hui un engagement de zéro fermeture d'usine ?
Bien sûr. Bien sûr, une garantie, c'est une garantie. Quand je lui dis, voilà, les emplois industriels, c'est ce qui est le plus important. Je suis le ministre de l'Économie qui me bat pour les emplois industriels en France, qui a réussi à obtenir que, pour la première fois depuis 10 ans, on recrée des emplois industriels en France et on ouvre plus de sites qu'on enferme. Vous savez, quand vous vous battez avec autant de détermination pour sauver Ascoval, c'est pas pour laisser fermer des sites industriels automobiles ailleurs. Donc c'est la première garantie que je demande. La deuxième que je demande, c'est que cette opération se fasse dans le cadre de l'alliance entre Renault et Nissan. Cette alliance existe depuis 20 ans. Nous avons souligné la semaine dernière avec mon homologue japonais que nous voulions la renforcer. Elle a permis là aussi des investissements technologiques importants. Je souhaite que cette fusion se fasse dans le cadre de l'alliance entre Renault et Nissan.
C'est vous qui avez prévenu les Japonais ?
Oui, j'ai prévenu.
Mais vous les avez mis devant le fait accompli ?
Mais ce n'est pas un fait accompli, il y a eu une annonce qui a été faite.
En tout cas, ils ont été mis à l'écart de cet accord. Ils peuvent penser qu'il y a eu des cachotteries à l'écart.
Mais il y a une gouvernance de Renault qui discute depuis plusieurs mois avec la gouvernance de Fiat. Et puis il y a une annonce officielle qui a été faite vendredi, une proposition officielle qui m'a été présentée par le président de Renault vendredi. Et c'est uniquement lorsque j'ai eu une offre officielle que j'ai prévenu nos homologues japonais.
Donc,
tout cela a été fait dans le strict respect des règles de gouvernance.
Quelle a été leur réaction, Bruno?
C'est une réaction qui est ouverte. Moi, je vois la réaction du président de Nissan, M. Saikawa. C'est une réaction qui, pour le moment, est ouverte. Mais j'ai demandé au président de Renault, Jean-Dominique Senard, de se rendre au Japon parce que je crois beaucoup plus aux discussions en direct et des visus qu'au contact téléphonique. Il fallait informer. Et maintenant, il faut discuter. Écoutez, il a dû arriver au Japon ce matin.
D'accord, mais
à ma connaissance, il a pris l'avion hier soir. Il est peut-être hostile lui aussi à emprunter les avions, mais pour le moment, pas d'autres moyens pour se rendre au Japon. La troisième garantie, j'insiste là-dessus.
C'est un peu tendu, les relations entre Renault et Nissan depuis l'affaire Ghosn. Vous êtes sûr qu'ils l'ont bien pris ?
On le sait que ces relations étaient tendues, mais nous employons avec Jean-Dominique Senard à les apaiser. Et c'est le rôle de Jean-Dominique Senard, c'est la première mission qui lui a été confiée, renforcer l'alliance entre Renault et Nissan, apaiser un certain nombre de tensions, lever un certain nombre de malentendus, et il est réussi remarquablement bien. Raison pour laquelle il est aujourd'hui au Japon pour engager ces discussions. La troisième garantie que nous demandons, c'est évidemment des garanties de gouvernance, qui sera ensuite à la tête de cet ensemble. Tout
et
ça
alors,
doit se discuter.
Qui pilotera ?
Mais tout cela n'est pas décidé, mais ça fait partie des garanties que je vais demander à Jean-Dominique Senard.
C'est pas l'héritier la gouvernance... de Fiat, c'est pas l'actuel dirigeant de Fiat qui sera à la tête du conseil
nous
d'administration.
Nous avons engagé des discussions là-dessus. Quand je dis nous, c'est Jean-Dominique Senard qui va engager ces discussions avec Fiat pour que dans la gouvernance, les intérêts français soient bien représentés.
Qu'est-ce que vous souhaitez, vous?
Mais je n'ai pas à émettre ce souhait préalable, sinon ça ferait échouer la négociation.
J'imagine que vous ne voulez pas qu'on disparaisse.
Ça fait partie, vous voyez, du cahier des charges que j'ai fixé. Les garanties, la première, l'emploi industriel et les sites industriels. La deuxième, l'alliance Renault-Nissan. La troisième, la gouvernance. Et la quatrième, à laquelle j'attache beaucoup d'importance aussi, c'est que ce futur ensemble industriel participe à l'initiative des batteries électriques que nous avons engagées avec mon homologue allemand Peter Altmaier. Nous créons, pour la première fois depuis Airbus, une grande filière industrielle européenne qui va pouvoir créer, c'est l'avis du commissaire européen, des millions d'emplois industriels en Europe, plusieurs milliers en France. Je souhaite que le futur ensemble participe à la commande de batteries électriques européennes au lieu de batteries chinoises ou sud-coréennes.
Encore un mot, parce que vous savez, il y a eu des fusions, je ne suis pas une spécialiste, mais des fusions dans l'automobile qui ont échoué par le passé. C'est toujours risqué. Tous les salariés qui ont connu une fusion,
bien sûr, je le savais,
ils pourraient vous en parler. Encore une fois, les syndicats, on les a entendus sur RTL d'ailleurs, sont quand même inquiets. Et puis, Agnelli aura par exemple, la famille Fiat aura une part de capital plus importante que l'État.
Mais on devrait être fiers, Elisabeth Martichoux, de réussir à créer un grand ensemble industriel européen. Enfin, on n'arrête pas de nous dire il faut des champions industriels européens. Et lorsqu'on en crée, on dit tout d'un coup « Ah, mais il y a les Italiens qui vont peut-être être devant nous ». Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir si entre la Chine et les États-Unis, face à un grand constructeur automobile chinois, nous sommes capables de créer un champion mondial automobile européen.
Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, lui, s'y est pas trompé. Hein. Il a exulté dès hier en parlant d'une opération brillante. Si Fiat croit, eh bien, on pourra protéger les emplois dans notre pays. Si vous voulez, lui, il va tout faire pour protéger les intérêts italiens.
Mais je ferai tout pour protéger les intérêts nationaux français et les intérêts européens face à la Chine et face aux États-Unis. Mais si pour une fois je peux être d'accord avec M. Salvini, ça n'arrive pas tous les quatre matins.
Eh bien, ce sera peut-être le cas. Parlons des européennes, un mot. Bruno Le Maire, Emmanuel Macron a perdu son pari d'arriver premier. Mais, nous dit la majorité depuis hier, il a sauvé son quinquennat. Vous continuez à vous accélérer ?
Oui, je pense qu'il faut continuer, je pense qu'il faut accélérer. Et je pense que cette élection est un succès pour Emmanuel Macron. Dans le fond, beaucoup pensaient, notamment les Républicains, l'opposition, que 2017, c'était un accident de l'histoire. Que l'élection d'Emmanuel Macron, cette espèce de grand chamboule tout politique, était un accident de l'histoire. En fait, c'était l'histoire tout court. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, une recomposition politique radicale, avec plusieurs blocs qui se dessinent, qui n'ont plus rien à voir avec la droite et la gauche d'hier. La droite et la gauche n'a plus aucun sens aujourd'hui dans la définition du paysage politique français. Vous avez un bloc très important, c'est ceux qui ne votent pas. Et c'est à ceux-là qu'il faut s'adresser en priorité. Tous ceux qui aujourd'hui se détournent de la politique parce que ça ne les intéresse plus, parce qu'ils se disent...
Quand est-ce que vous attaquez aux préoccupations quotidiennes
sur l'emploi,
sinon,
sur leur formation,
sur
leur déplacement.
Le vainqueur va changer de camp.
C'est à ceux qui sont nos opposants d'inventer justement des projets. Vous voyez bien, notamment avec les Républicains, que lorsqu'on n'a pas de projet, vous n'arrivez pas à convaincre grand monde.
Et l'air peut disparaître, votre ancienne famille peut disparaître.
Mais ils ont disparu. Ils ont disparu.
8,5%.
Ils ont disparu, mais ils ont disparu depuis très longtemps. Une famille politique n'a pas d'avenir quand elle n'est pas fidèle à son passé. Et les Républicains, depuis des années, ne sont plus fidèles à leur passé. Ils ne le sont pas sur les questions économiques, puisqu'ils n'assument pas la compétitivité, l'ouverture au monde, l'innovation que nous défendons. Ils n'ont pas voté une seule des réformes que j'ai portées pour améliorer la compétitivité des entreprises, simplifier la vie des PME. Ils ne sont pas fidèles à leur passé politique. Quand ils refusent de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais dans toute l'histoire de la droite républicaine, quand il y avait un choix aussi décisif à faire, il était fait. Ils n'ont pas respecté ce passé. Ils n'ont pas été fidèles à leur histoire non plus, en n'ayant pas d'ambition européenne importante, alors même que toute l'histoire de la droite républicaine, c'était de porter une ambition européenne importante.
Quand
on n'est pas fidèle à son passé...
Laurent Wauquiez veut tout refonder.
Quand on n'est pas fidèle à son passé, Élisabeth Martichoux, on n'a pas d'avenir. C'est le cas de la droite républicaine aujourd'hui.
Laurent Wauquiez dit, on va tout refonder, on va tout repenser, on va tout remettre sur la table.
Il est trop tard.
Il est trop tard pour qui ? Pour lui ? Il ne peut pas le faire ?
Pardon, mais ce n'est plus mon sujet, ce n'est plus mon histoire, et je ne crois pas que ce soit le sujet des Français non plus. La droite, la gauche, les Républicains, tel parti, voilà, les partis sont mortels. Nous en avons aujourd'hui la preuve, et ça n'a pas d'importance, Élisabeth Martichoux. Car ce qui a de l'importance, c'est l'avenir de la France et des Français. Qu'est-ce que nous proposons pour améliorer la situation des Français ?
Qui améliorera demain ? Qui est capable d'abord de peut-être finalement affaiblir cet adversaire qui est devant vous, face auquel vous êtes seul, c'est-à-dire le Rassemblement national.
Et je considère que le premier enjeu comme ministre de l'économie et des finances, c'est que chaque Français ait un travail qui paye bien et un travail qui permette de vivre dignement soi-même et sa famille. C'est pour moi la priorité comme ministre de l'économie et des finances absolue. Ensuite, entendons bien le message aussi qui nous a été adressé sur la nécessité de faire plus attention à l'environnement, d'avoir une croissance durable. Ce message a été passé dans tous les pays européens, il faut l'entendre.
Vous êtes venu en voiture électrique, vous ?
Je suis venu avec ma voiture qui n'est pas électrique, mais qui est une Renault.
Eh bien, il y a encore des progrès à faire. Merci beaucoup, Bruno Le Maire, d'avoir été ce matin sur RTL.
Sur l'alliance Renault-Fiat, Bruno Le Maire confirme avoir demandé 4 garanties au président de Renault. La première étant celle de la préservation de l'emploi et des sites français. Voilà pour le message adressé aux salariés du groupe sur RTL.